Bonjour, nous sommes le samedi 10 février 2007 et il est exactement midi.
Éphémère est une radio libre, sans pub et indépendante, fondée à Toulouse en 1981. Notre mission, vous faire partager nos passions, nos coups de cœur et ce qui va vraiment faire bouger votre monde.
S'invite dans vos oreilles aujourd'hui avec, pour commencer, maintenant, le supplément week-end avec l'actu, BD, ciné, DVD, TV et interview, suivi de Ça c'est du sport, à 13h résultat en direct des stades, des vestiaires et de l'infirmerie. Et ensuite à 15h avec scène, transmission, 16h c'est le potager, 17h Big Bang, 18h du punk, vie d'ordure, 20h la stétéro expérience et l'électro, et à 21h30, 9 Stoned. Non, c'est 9 Tune. Oh. Oui, je sais, je me plante pitoyablement.
9 Love ?
9 Love, ouais. Mais c'est non, non, il a. Ah non, c'est Stay Tuned, pardon, d'accord, ok. Oh, j'arrive plus à suivre.
Un mix entre nos propres émissions.
Ouais, mais je sais pas, ça doit être l'appel des bombes, là, je sais pas. Puisque aujourd'hui, dans le supplément week-end, nous avons une interview. Un jeune dessinateur qu'on a rencontré à Angoulême pour une histoire assez surprenante à Bagdad.
Oui, une histoire animale.
Puisque donc c'est Nico Arichon qu'on a rencontré à Angoulême pour The Pride of Baghdad, qu'on va vous faire découvrir, et plein d'autres choses, bien évidemment, aussi dans le supplément week-end. Bonjour Thomas.
Bonjour Xavier.
Vous êtes avec nous jusqu'à 13h et pas mal de pelures. Du sport va arriver en cours d'émission, donc pas de panique, vous êtes sur Éphémère, la poubelle des radios. Et là, en guise d'introduction, c'est un truc qui claque un peu. Speedy G, Actor 9. Oui, je sais, c'est pas tout jeune, mais bon. Bon, c'est juste pour vous mettre dans l'ambiance, hein. Un peu explosive. We'll be right back. Ça devait être ça, je devais pas être réveillé, je pense, tout à l'heure, pendant la séquence pré-générique.
Ah, ça va mieux.
Ah, ça va un peu mieux, oui. Je sais pas, c'était peut-être ce qu'il y avait avant. Un truc, là. Il y a Thomas qui est en train de lire l'un des bouquins qu'on va chroniquer tout à l'heure. Et je crois qu'il est un peu scotché.
Grave.
En attendant, c'est la revue de presse.
Oui, donc cette semaine, nous allons parler du magazine Score qui est...
Qui fait mal aux yeux.
Qui est très jaune et c'est le numéro 27. Il ne vaut maintenant plus qu'1,90€ car il est passé à 15 hebdomadaires. Le premier 15 hebdomadaires du cinéma à nouveau, c'est l'accroche du magazine.
Est-ce que on peut chroniquer, oui, parce que vous comprenez, en hebdomadaire, là, ils seraient très emmerdés. Ils auraient à parler, par exemple, la semaine prochaine, à la fois de la sortie de La Môme et de Taxi 4.
Oui.
Alors là, c'est pour une Saint-Valentin, c'est génial. Allez au cinéma, voir Taxi 4, allez hop.
Alors ça, c'est un spécial autour du film Grindhouse de Tarantino et Robert Rodriguez. Et c'est un dossier sur le retour du cinéma cool. Qu'est-ce que c'est que ce cinéma cool? Ben, c'est un cinéma qui se prend pas au sérieux et qui, avec des pépettes, des flingues de partout, et ça canarde sec et avec des explosions, mais pas à la Michael Bay, c'est un peu avec un esprit un peu dérangeant, tu vois. Donc là, ils ont fait un top 3 des films cool attendus. Donc il y a Grindhouse de Tarantino et Rodriguez. Avec un casting, s'il te plaît, il y a Kurt Russell, Rose McGowan, Michael Bane, Tom Savini. Le casting de la grande époque. Smoking Aces, c'est le nouveau film de Joe Carnage.
Ouais, à noter, j'ai oublié très rapidement de relancer sur donc le film de Tarantino et de Rodriguez. On promet que quand on tire sur les chandeliers électriques, ils explosent. C'est une particularité qu'on a vue sur le site web.
Smoking Aces de Joe Carnahan qui avait fait précédemment Narc. Et donc là aussi c'est un film où ça bastonne sec avec des gunfights à la John Woo, etc. Le casting aussi tabasse grave puisqu'il y a Alicia Keys, Ryan
Alicia
Reynolds,
Keys.
Jason Bateman, Ray Liotta, Peter Berg, bon voilà, que du gros, donc et Alicia, voilà.
Alicia Keys. Keys.
Et on a aussi le troisième film appelé Cool par la rédaction de Score, c'est Blake Snake Moan avec Christina Ricci qui a bien grandi depuis la famille Adams. Et il y a aussi un dossier sur le retour de la censure, la tronçonneuse et la censure, quel massacre. Voilà, à l'occasion de la sortie du futur de Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Qui promet pas mal de scènes gore. Alors ils ont fait des
on va suivre la construction dans la chaîne de montage d'une tronçonneuse à chaîne Black & Decker. Voilà, ça va être un grand moment de publicité,
voilà,
de gore.
C'est presque ça. C'est Score, le nouveau 15 hebdomadaire, 1,90€, c'est pas cher. Après bon, ça c'est léger, c'est du soft par rapport à ce qu'il faisait avant, mais on a quand même encore un petit peu l'esprit, ils sont pas encore premierisés. Tiens, il y a du sport qui vient d'arriver, il est mort de rire en voyant la couve.
Voilà. Tant qu'il s'installe, on montera le micro. Voilà, zou, allez. D'ailleurs, sport qui est arrivé heureusement avec le casque parce que j'en pouvais plus là, c'est un piège à basse là, celui que j'ai d'habitude. Donc je change un peu en direct de casque du sport. Mais se met en place, voilà, proprement. Peut-être quelque chose à dire rapidement là, le temps que
Orange.
Je change de truc. Orange.
Orange.
Ouais.
Orange. Oui. Orange.
Comme le logo de la radio.
Bonjour.
C'est bien avant. Bonjour. Donc, le nouveau film de Tarantino, il arrive quand en France,
au fait? Ouais, non, mais attends, relis le titre du Score, parce que ça m'a fait mourir de rire.
Exclusif, Tarantino Rodriguez, le retour du cinéma cool. Ouais. Et voilà, c'est ce qu'on disait, c'était un dossier sur les films cool attendus. Non, mais en plus, bon, c'est pas. C'est pas le cinéma cool comme pour les jeunes, c'est le cinéma cool que les gens comme toi ou moi aiment bien, tu vois. C'est le truc avec les pépettes, avec Rose McGowan qui a une jambe qui est partie, elle a une traînette à la place, tu vois. C'est le genre de truc. Je sais pas si t'as vu la bande annonce.
La bande annonce, c'est hallucinant.
Je sais pas si t'as vu la bande annonce de Grindhouse sur le net. T'as Danny Trejo qui fait un saut avec une moto équipée de mitraillette au-dessus d'une explosion. Ça fait très Desperado. Voilà. Alors, c'est juste précision, les segments s'appellent, dans celui de Rodriguez, ça s'appelle Planet Terror, c'est une histoire de zombies, et celui de Tarantino, ça s'appelle Death Proof, avec Kurt Russell qui nique qui bute les nanas avec une voiture à tête de mort.
Voilà. Ah, bah, s'il y a Kurt Russell, mon avis va changer.
Et il y a Tom Savini, Michael Bane, que du lourd. Excusez-nous, on fait la chronique en double parce qu'il y a du sport.
Michael Bean.
Ouais, du sport. Tu peux réessayer ton rire sardonique, s'il te plaît, rien que pour voir. J'aime mieux. Voilà, en direct live. On va entamer direct la partie bande dessinée. Avec une interview qui a été réalisée lors du festival d'Angoulême, donc de Nico Arichon, qui est un auteur québécois, que l'on découvre en France donc avec Pride of Baghdad. Thomas va vous parler pour commencer d'abord de l'album.
Oui, alors, on chronique l'album d'abord ?
Oui.
Ok, donc il s'agit de, tu l'as dit, le titre Pride of Baghdad, c'est édité chez Panini Comics. Le scénario est de Brian K. Vaughan, donc le dessin de Nico Arichon, dont on écoutera tout à l'heure l'interview. Et ça raconte, c'est une BD inspirée d'un fait réel survenu en 2003 pendant les frappes américaines à Bagdad, où quatre lions se sont échappés d'un zoo et qui ont déboulé dans la ville, voilà. Et on vous raconte pas comment ça finit, évidemment. Donc c'est une ode pour la liberté de quatre lions qui n'avaient connu jusque-là que le zoo, à part un membre de cette tribu. Et donc il se pose la question, est-ce qu'il vaut mieux partir et quitter la sécurité du zoo, quitte à avoir une liberté peut-être éphémère, ou on sait pas trop. Donc il se pose beaucoup de questions par rapport à ça. La BD est superbe.
Graphiquement, c'est une claque.
Oui, ça a été fait colorisé sous Painter et Photoshop avec un trait quand même assez expressif. On se demande même s'il a pas gardé justement le trait des roughs et des crobards de préparation. Oui, du sport est en train de s'extasier devant la dédicace. Et vraiment, c'est une claque au niveau visuel.
C'est une histoire complète. Il faut le préciser,
Ouais. Et ce qu'il y a d'intéressant dans la BD, on va parler juste de technique, c'est par rapport au découpage, c'est que il y a le développement de l'intrigue qui est assez classique, et puis tout d'un coup, il y a des doubles pages qui sont de toute beauté sans parole, où t'as les lions qui découvrent justement la ville à Bagdad, des décors de palais intérieurs, etc. Et c'est vraiment scotchant. Donc après, il faut avoir lu la BD pour comprendre un peu le sous-texte qu'il y a derrière, puisqu'évidemment c'est une portée symbolique, puisqu'il n'y a pas pris des lions par hasard non plus.
Ah, et l'ours là, je découvre l'ours.
Ouais. Et donc voilà, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, au niveau du visuel également, on peut noter. Bon, on peut être sceptique au début parce que la partie dans le zoo est un peu bavarde. On dit tiens, c'est quoi ces dialogues un peu à la Mormoineux et tout. Des nodes pour la liberté d'animaux qui doivent absolument se déplacer pour survivre. On a déjà vu ça avec l'âge de glace. Les lions ne sont pas disneyifiés, on va dire, puisqu'ils sont, ils sont anthropomorphiques, mais ils ont quand même encore un look un peu réaliste, on va dire. Donc c'est ça qui est aussi proche de l'âge de glace. Mais après c'est plutôt pareil. Effectivement, les trois derniers quarts du bouquin, c'est plus de la contemplation, et puis voilà, le visuel est tout à fait dévastateur pour suite de la BD.
Pendant que Dusport est en train de le regarder, donc l'unique mauvais point de ce bouquin concerne sa version française, sa quatrième de couverture.
Ah oui.
Qui oubliez là, voilà. Vous laissez pas avoir par l'espèce de résumé qu'il y a derrière.
Je crois que c'est un texte écrit par un Américain.
Ouais, mais de toute façon, en plus avec les bandeaux qu'ils mettent maintenant, les citations de
Entertainment Weekly.
Ouais. C'est un peu catastrophique. Mais bon.
Oui. Alors là, ça, par contre, ça va. Il faut surtout pas la lire parce que ça. Déjà, si vous lisez avant la BD pour vous dire qu'est-ce que c'est que cette BD, alors franchement, ça vous nique l'intérêt puisque ça n'a absolument rien à voir. Et puis en plus, ils en font des tonnes, donc ça te dit c'est quoi cette BD prétentieuse. Et effectivement, une fois qu'on a lu la BD et qu'on revoit le texte derrière, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce truc.
Et voilà. Nico Arichon interviewé lors du festival d'Angoulême, c'était samedi, il me semble, samedi 26 janvier 2007.
Nico Arichon, bonjour.
Bonjour Thomas.
Tu es là pour présenter la bande dessinée Pride of Baghdad, qui raconte l'évasion de quatre lions à Bagdad pendant les frappes américaines. Tu as dû beaucoup faire preuve de beaucoup d'investissement, tu as dû camper au zoo le plus proche, amasser pas mal de photos, dépenser pas mal de dollars dans les bouquins d'anatomie. Tu dois avoir envie de passer à la SF Space Opera en ce moment.
Non, pas nécessairement. Tous les projets sont bons pour moi, tous les genres de projets sont bons. Pride of Baghdad, ça a demandé beaucoup de travail de recherche, effectivement. et beaucoup de presque plus d'un an de travail, plus qu'un an de travail. Et ben voilà, effectivement, il y a des projets de SF dans l'air pour des mises pour une maison d'édition chez vous, quoi. Donc voilà, c'est ça.
Moi, tu dis que tu as passé un an de préparation, c'est plutôt rare en général.
L'album a pris plus d'un an à être réalisé.
C'est plutôt rare qu'on laisse autant de temps en général dans l'industrie du comics pour faire un graphic novel.
Bah, dans ce cas-ci, c'est quand même 128 pages. je l'ai fait au complet. Enfin, tout ce qui est visuel, je l'ai fait au complet, du dessin jusqu'à la couleur. 128 pages dans un an, c'est quand même relativement rapide.
Le style graphique est très réaliste, hein, avec les lions qu'on voit sous toutes les coutures, il y a des ours, etc. Est-ce que le fait que tu aies travaillé sur cette bande dessinée qui était proposée par le scénariste, enfin, comment ça s'est passé déjà la genèse, et ensuite est-ce que tu as accepté pour le défi technique ou pour l'histoire en fait?
La genèse de Pride, c'est très très simple. C'est l'éditeur qui avait travaillé avec moi auparavant sur mon premier album qui s'appelait Barnum. Et je l'ai contacté après quelques temps. Je cherchais pas nécessairement du travail, mais je l'ai contacté comme ça parce que je le connaissais. C'est un ami. Et il m'a dit tout à coup comme ça, on cherche un artiste pour faire l'art sur ce projet de Lyon qui se passe à Bagdad, écrit par Brian K. Vaughan. Alors déjà juste à entendre le nom, ça m'a branché tout de suite. J'ai dit ah, cool. Par contre, un projet de Lyon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'un projet d'animaux? Alors, je me demandais ce que c'était. Donc, dès qu'il m'a envoyé le synopsis de l'histoire, ben, j'ai lu ça en 5 minutes. J'ai dit, oh oui, c'est clair que je suis de la partie.
Pour ramasser de la documentation, pour décrire les décors de Bagdad, vous avez travaillé avec des blogueurs irakiens via Internet. Comment s'est passée cette collaboration? C'est l'éditeur qui a démarché ou comment ça s'est passé?
Non. C'est pas vraiment une collaboration. J'ai pas communiqué avec ces gens-là. J'ai seulement regardé leur blog. Il y en a plein, il y en a tellement. Et puis en plus, ils ont des super photos. C'est merveilleux ce qu'on fait aujourd'hui avec les caméras digitales. Alors j'avais toute la documentation que j'avais besoin et c'était le moment parfait pour faire l'album parce que toute la documentation était accessible, les édifices, les lieux, les ambiances de lumière. Dans l'album, par exemple, il y a une scène où est-ce que il y a une tempête de sable. C'est documenté à partir de photos prises par des gens qui étaient là. Quoi. Donc voilà, en gros, la genèse de l'album et la documentation.
Ce qui est très sympa dans le style graphique, pour parler un peu technique, c'est le trait qui fait un peu encore rough, très expressif, avec des couleurs qui sont visiblement faites sous Photoshop ou Painter. Tu peux nous en dire
Photoshop et Painter, effectivement. Oui, oui.
Et après ce graphic novel qui t'a fait un peu remarquer un peu partout, une envie de travailler pour l'industrie des comics peut-être, des super-héros, ou alors est-ce que tu veux garder absolument ton indépendance?
Pour le moment, j'avoue que je travaille un peu de tous les côtés, c'est-à-dire que j'ai en trame de fond, si on veut, un album dont vous avez parlé tantôt, un album de science-fiction, un projet d'album de science-fiction qui va être publié chez Dupuis. Et je fais, entre les pages de cet album-là, je fais divers projets pour les éditeurs américains, Marvel et puis DC. Je fais des couvertures, des courtes histoires, des choses comme ça. Donc j'aime bien garder un pied de chaque côté, comme on dit.
Tu estimes que ton inspiration est plus proche de la bande dessinée européenne ou de l'industrie du comics actuellement?
Moi, ma jeunesse, c'était beaucoup plus la bande dessinée européenne. Donc évidemment, c'est ça. C'est ce qui m'a influencé le plus. Ensuite de ça, bon, j'ai découvert les comics assez tard. Quand j'ai étudié dans la bande dessinée, je me suis intéressé à tous les genres de bande dessinée, donc incluant les comics, incluant les mangas, ces choses-là. Donc voilà. À la base, c'est plus la bande dessinée franco-belge qui m'a donné l'envie de partir dans la bande dessinée.
Tu penses que tu aurais fait avec un autre éditeur que Marvel, le scénariste aurait été peut-être un peu moins bridé sur l'histoire?
C'est difficile d'imaginer un projet comme Pride of Baghdad chez un autre éditeur que Vertigo, puisque en ce moment, les éditeurs comme Marvel et DC, réguliers, DC Universe qu'on appelle, ils ne font que du super-héros. Donc, il n'y a que Vertigo qui sort un peu de ça. Et d'après moi, qui est capable de supporter un projet comme Pride of Baghdad. Je crois pas que Pride of Baghdad aurait pu être publié ailleurs que chez DC Vertigo.
Nico Erichon, merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et si vous voulez découvrir les œuvres de Nico Erichon sur le net, il a un site graphique qui est assez beau qui s'appelle nicoerichon.com. Alors plutôt que vous les peler, on vous mettra le lien directement sur le site internet de la radio. Et à noter que le transcript de cette interview, vous pouvez bien évidemment le réécouter dans le site de l'émission Supplément Week-end. Vous allez sur Radio FMR, vous cherchez Supplément Week-end, vous allez tomber sur nous forcément et cliquez, vous tombez sur les pages spécialisées. Ou sinon vous cherchez Supplément Week-end, Radio FMR, MP3, vous allez tomber donc sur les interviews et les sonores complets des émissions, mais aussi en même temps donc le transcript va être publié sur le site actuabd.com
certainement ce week-end ou lundi.
Voilà, donc ActuaBD qui est un site de référence sur donc l'industrie de la bande dessinée. Et Nico Erichon nous a confié donc qu'il avait un projet de science-fiction.
On n'a pas le droit de dire avec quel éditeur.
Voilà, bah oui, c'est en cours de négociation, mais en tout cas, ben bah, déjà, on sait qui est le scénariste, et déjà, ça nous fait ouais, ça va pas être mauvais du tout, ça va plutôt être intéressant. On a oublié de redonner les
références de la BD. Donc, il s'agit de Pride of Baghdad, dessin de Nico Erichon, scénario de Brian Vaughan, et c'est édité chez Panini Comics
dans la collection Vertigo. Et on va entamer sortie bande dessinée, il est midi 24 minutes. Commencer avec une bande dessinée qui vraiment ne paie pas de mine comme ça, c'est Delaf et Dubuc qui la produisent chez Dupuis. Ça s'appelle Les Nombrils. Il s'agit du deuxième tome de cette série qui s'appelle Sale temps pour les moches. Innocemment, d'ailleurs, dans ce format BD, 48 pages, format A4, cartonné, avec des couleurs saturées, un dessin stylisé. Ben, on croirait pas que c'est.
La BD de supermarché, c'est ça?
Non, plutôt de Spirou. C'est la BD de Spirou, c'est vraiment le format Spirou, c'est pas le BD de supermarché, non, loin de là. Moi je dirais que, justement, venant de Spirou, cette BD, on croirait pas que c'est un album qui est une œuvre subversive, qui est capable de faire d'immondes ravages auprès des ados, massacrant leur mode de vie uniquement basé sur la mode, le paraître et la popularité entre élèves. Oui, les Nombrils s'attaquent à la lutte des classes. Et j'appuie mes arguments. Jenny et Vicky sont deux adolescentes de purs produits de la société de consommation, de consentantes, victimes de la mode, tel est leur nom de code, dont la seule lecture politique est celle du salon de coiffure, des garces terribles qui se croient belles à coups de vêtements hors de prix. de lycéennes sans un seul once de réflexion, d'intelligence ou même d'humanité. Ces nombrils ne vivent que pour être vus par des garçons à la condition express qu'ils soient beaux, riches, beaux, riches et disponibles rien que pour elles. Attention, je précise, l'une seule d'elles. Dans 20 ans, ce seront des épaves ruinées par les sociétés de crédit revolving, mais pour l'immédiat, elles sont au lycée. En attendant, l'essentiel de leur vie, outre de draguer John John parce qu'il a une moto, se consacre uniquement à pourrir la vie d'une fille qui croyait être leur amie. La pauvre Karine est trop grande pour trouver des vêtements de mode qui lui va. Elle est... Ouais, elle a pas un physique très agréable, mais elle est pas si moche que ça. Elle manque, ok, un peu de sein, et c'est vrai qu'elle est pas mal naïve. Et Jenny et Vicky sont suffisamment vaches pour lui faire croire qu'elles sont ses meilleures amies, allant jusqu'à tout lui faire pour lui saboter sa vie amoureuse, sa réputation, son moral. Et les mots peuvent faire très mal, surtout à l'adolescence, tranche d'âge très propice aux idées de suicide. Heureusement pour Karine, les deux cruches sont plus connes que franchement dangereuses. Fut-il ne voyant pas plus loin que l'étiquette des fringues, leur propre bêtise les faire dans dubuesques drames, des catastrophes propres à ruiner leur réputation et leur amour propre. Sauf qu'au lieu de les retenir pour préparer à leur vie d'adulte, eh ben, ces leçons ne rentrent jamais dans leur petite tête qui est occupée par le catalogue de Jennifer et toujours préoccupée par leur réputation plutôt que par exemple passer le bac. Comme en plus il arrive fréquemment que Jenny et Vicky se font des crasses entre elles, eh ben, Karine a quand même du répit pour se montrer plus mature qu'elle. C'est absolument ignoble, infect, sans pitié, mais alors... Qu'est-ce que c'est marrant, c'est énorme. Les nombrils, le deuxième tome s'appelle Sale temps pour les moches, c'est chez Dupuis, c'est de la fée du Buc. Osada Yuko vient de se voir traduit en France par Doki Doki, une histoire complète qui s'appelle C. C étant deux tomes, 1 et 2. Et c'est l'histoire et ben, de Kaori, qui est une jeune journaliste enthousiaste et pour qui c'est pour son premier reportage. Et ben, on l'envoie à Tomato, une grande ville en pleine confusion politique. Ancienne capitale du pays est tombée en décrépitude. Mais alors qu'elle s'approche de l'hôtel de ville, elle se rend compte que ce qui fut naguère un très grand centre économique est devenu un repère à junkies. Une zone où il vaut mieux ne pas rester trop longtemps dans les rues, devenues des coupes-gorges mortelles. Et en cas de souci, même les téléphones portables ne captent plus. Elle se rend compte que son sujet tient plus du journalisme de guerre que du papier d'ambiance. Kaori va très vite regretter d'y avoir été envoyée. Et elle va découvrir par hasard que le nouveau maire, Kyo Goku, contrôle toute la ville grâce à une drogue qu'il a créée, le Katon. Tous les adultes sont donc soit à la recherche de leur dose, soit des hommes de main de la pègre. Et évidemment, la jeune Kaori n'est pas franchement la bienvenue. Elle serait même déjà passée à la casserole si une bande d'enfants ne lui avait pas sauvé la mise. Un petit groupe d'enfants mené par Tai qui veulent juste le retour à une vie normale, rangée, comme avant quoi. Des gosses conservateurs qui vont voter à droite quand ils seront grands. Tout venant à peine de s'apercevoir dans quelle ville de fous elle vient de mettre les pieds, Kaori se retrouve brusquement poursuivie par toute la mafia de Kyo Goku, ayant embarqué par erreur un sac contenant des échantillons de la prochaine drogue qui servira à asservir tout le pays. Bref, il y a marqué « cible » sur son petit minois. Et pas sûr qu'une bande de gosses de rue suffise à la sauver de grosses brutasses d'arts martiaux. Certaines idées sont très rigolotes. Tous les titres de chapitre, par exemple, n'ont qu'un mot dont la première lettre est un « C ». Où la violence est désamorcée aussi par le look assez cartoon quand même de la bande dessinée, la dynamique graphique et scénaristique assez soutenue et qui ne s'essouffle pas, justement parce que toute histoire ne tient qu'en deux tomes. Comme on peut parler plus d'histoire complète que de série, cette manga pour ado garde sa fraîcheur et en plus a l'avantage de ne pas ruiner les budgets des collégiens. C'est le tome 1 et 2 sont sortis ensemble chez Doki Doki, c'est de Osada Yuko. Excusez-moi, je viens de zapper un peu sèchement. Zou, feuille suivante. Avec au scénario Ange, Anne et Gérard, et le dessin c'est Doé. Ça s'appelle Chevalier Dragon, c'est dans la collection Fusion chez Soleil. Et que dire ? Alors, les scénaristes Ange ont écrit une série qui a fait date dans l'héroïque fantasy en bande dessinée. Ça s'appelle La Geste des Chevaliers Dragons. Il y a 5 tomes qui sont sortis à ce jour. Il y en a un 6e qui est prévu pour le premier semestre chez Soleil. Et le premier tome avait été illustré par Alberto Varanda. Et chacun des 5 tomes a eu un dessinateur différent, à une exception près d'ailleurs, si je me souviens bien. Nous apprenons donc Ange, nos services les connaissent aussi sous le nom de G.E. Ran, et comme scénariste de jeux de rôle et romancier de science-fiction, viennent d'écrire une histoire complète en spin-off. Une histoire qui est illustrée par Doé, un dessinateur sud-coréen. Dans le cadre de leur collection Fusion, et ben les éditions Soleil, Mourad Boujelal nous fait donc une démonstration de délocalisation dans la production de bandes dessinées. L'histoire, le continent a été ravagé par les dragons, les veilles, d'immenses reptiles qui apparaissent sans raison et qui distordent la réalité. Leur proche voisinage commence à se déformer, les êtres deviennent monstrueux, fous, dangereux, inhumains avant de mourir dans d'atroces souffrances. Les dragons sont donc un fléau pour l'humanité, mais personne n'arrive à les approcher d'assez près sans être contaminé par leur mal. Pratiquement personne. Seules les filles vierges sont épargnées par leur mal corrupteur. Ainsi furent formées des guerrières qui apprirent à se battre pour tuer ces redoutables bestioles, mais aussi pour défendre chèrement leur très précieuse virginité. Ces amazones chasseuses de vers montèrent l'ordre des chevaliers dragons. Mais ça, c'était il y a 30 ans, sur un lointain continent. L'histoire que racontait la grand-mère d'Alathea. Une jeune fille obstinée qui ne croit pas que cette peste qui ravage actuellement son île soit naturelle, mais plutôt due à un dragon, justement. Que les mesures de quarantaine et de purification par l'épée menées sous l'autorité des hauts prêtres ne sauvera pas les habitants de l'île. C'est donc seule, bille en tête, prêtant foi aux histoires de son aïeul, que la jeune Alathea va vouloir prouver combien les prêtres ont tort. Tout ça pour sauver sa sœur Aléa, qui vit dans un quartier qui va être nettoyé par les armes afin de contenir la contagion. Et la suite, eh ben je vous la laisse l'imaginer. Rien à redire, le scénario est plutôt efficace, quoique plus linéaire que la série principale. Son interprétation par Doué donne une richesse à cette série française par la culture de son pays et son trait exotique. Et surtout le fait que cela soit fait en infographie. Ce qui relance énormément l'intérêt de la série, justement par le changement régulier de dessinateur. Quant à Ange, ils sont des conteurs de talent et ils nous font passer un très très beau moment avec leur saga héroïque. Chevalier Dragon, une histoire complète de Ange, et donc dessinée cette fois-ci par Doé, c'est dans la collection Fusion chez Soleil. Thomas, graphiquement ?
Bah, graphiquement, tu vois bien que c'est pas européen, quoi.
Bravo ! On peut continuer comme ça, ouais.
Non, mais c'est vrai, c'est... On peut voir que...
Enfin, ça change l'héroïque fantasy à la française. Hein,
ah oui, c'est clair, mais après, tu vois le rendu, il est assez particulier, parce qu'il y a des images qui sont très très floues.
Ça fait un petit peu aérographe par moment, quoi.
Oui, exactement. Et t'as aussi des fois, par exemple, là, je vois la différence de rendu d'une image à l'autre. Là, celle-là, elle est super léchée. C'est un gros plan sur un visage où t'as vraiment un effet de matière assez saisissant. Et sur une autre, tu le vois le même mec plus loin. Alors là, par contre, c'est assez approximatif, on va dire. La barbe de 3 jours, c'est juste des traits qui sont même pas droits. Enfin, t'as vraiment l'impression que c'est plaqué par-dessus. Moi, ce que je retiens là en feuilletant rapidement, c'est que les ambiances sont vraiment très saisissantes, mais c'est assez inégal par contre.
Toi, tu as pas lu le Geste des Chevaliers et Dragons ?
Non, je l'ai pas lu, non.
D'accord.
Je le découvre à l'instant.
12h35 sur la poubelle de radio, vous écoutez FMR, c'est le supplément week-end, émission numéro 101, il me semble. Et j'ai envoyé chier la pub, tiens, pour une fois. Zou.
On enchaîne alors ?
Oui, tout à fait. La chronique DVD vous est présentée en Dolby Mono sur onde par Thomas.
Et aujourd'hui, nous allons vous parler d'un putain de film.
Il est énorme.
L'antre de la folie de John Carpenter, qui est enfin disponible en DVD chez Metropolitan. Et c'est une édition prestige. Alors là, je vous amène que le... que le boîtier normal, hein, parce qu'il y a un revêtement avec des trucs fluo. Tu sais, quand tu passes devant, ça fait holographique un peu.
Ouais, ouais.
Bon, non, il avait pas envie de l'abîmer, d'accord.
Ouais, voilà, exactement. Et puis j'ai pas encore vu la version commentée, donc j'ai amené le boîtier avec le DVD à l'intérieur, mais bon, je le reprends quand même. Je vous le ramènerai la prochaine fois. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant de l'intérêt de ce film qui a été, je crois, qui est sorti en 92 ou 91, je crois.
Bah moi, je me souviens qu'il était sorti un mois après Jurassic Park. Au cinéma.
Jurassic Park, c'est 93, donc dans ces eaux-là, ouais.
Ah ouais.
Alors, ça, c'est l'histoire de l'écrivain Sutter Kane, qui est un grand maître du roman d'épouvante. Ses œuvres provoquent la folie chez le lecteur, car ils ne peuvent plus distinguer la réalité et la fiction. Lorsque Sutter Kane disparaît, son éditeur Arkane mandate l'enquêteur John Trent pour retrouver sa trace. Celui-ci se rend compte que l'emplacement de la cachette de l'écrivain, Hobbs End, est révélé dans les couvertures de ses livres. Sur place, Trent et Linda Stiles, l'assistante de l'éditeur, découvrent une ville de cauchemar où tout le repère vole en éclats. Sont-ils les personnages du roman de Sutter Kane? Ce qu'ils voient est-il réel? Doivent-ils publier l'ouvrage? Alors voilà, c'est... Ouais, on est à court de superlatifs, hein, de toute façon, parce que pour moi, c'est quand même le chef-d'œuvre de Carpenter. Bon, et même s'il a fait des cultes et des cultes et des cultes, quand même, celui-là, c'est quand même du lourd. Réflexion sur le pouvoir de la littérature d'horreur. C'est un hommage, même pas déguisé à Lovecraft, de toute façon.
Oui, de toute façon, à fond, sur justement la description uniquement des effets, on ne voit pas vraiment les bestioles, hein, et tout ça. Là-dessus, c'est très très fort. C'est une claque monstrueuse.
Oui, parce qu'en plus, y a l'assistante qui est absolument fan des bouquins de Sutter Kane, qui lit des passages de l'écrivain pour comparer avec ce qu'il voit effectivement en réel. Et les passages en question sont tirés des vraies œuvres de Lovecraft. Donc déjà, ça prouve un peu le...
Ah d'accord, donc ils ont utilisé les textes originaux, d'accord.
Oui, alors par contre, je sais plus de quel bouquin c'était extrait, je crois, c'est pas l'affaire de Charles Lester Ward, c'en est d'autres. Et de toute façon, je les ai pas lus, donc je pouvais pas te dire.
C'est pas la couleur tombée du ciel?
Je sais pas, faut que je retrouve les interviews de Carpenter, hein, je crois. Alors, ce qu'on peut retenir aussi, pour parler un peu technique, c'est effectivement, c'est... Bon, Carpenter, de toute façon, il a jamais caché son goût pour le cinéma classique de John Ford ou Howard Hawks, donc sa mise en scène, même si elle est surcadrée, ça reste quand même du classique, c'est pas du flash ou des trucs avec super coupé d'aujourd'hui, c'est vraiment l'ambiance posée, du cinémascope, avec il va pas découper une action avec un mec qui fracasse quelqu'un, ça va être en un seul plan, ça va pas être surdécoupé. Donc c'est ça qui est aussi... qui ne vieillit pas finalement, c'est un côté indémodable. Alors évidemment il y a quelques flashs, puisque essentiellement sur ce film il s'est autorisé quelques expérimentations visuelles, puisque il faut bien rendre compte visuellement de la teneur des bouquins, puisque l'assistante est en train de lire la fin du livre et donc l'écrivain lui dit vous allez lire le bouquin et tout, donc elle est maudite à jamais, elle a l'œil qui saigne et tout, et là il est obligé de mettre en image, donc là on a un peu de flash pour des flashs avec même pas des plans qui durent une seconde où t'as juste un aperçu de ce qu'il y a à l'intérieur, des tentacules, une suite de séquences qui intervient à la fin du film et au début pour te laisser présager de ce qui va arriver dans le film aussi. J'ai une petite bande-annonce à l'intérieur du film. Et ce système de mise en abîme, en fait, on le retrouve aussi dans la description des cauchemars, puisque c'est quand même le film assez célèbre pour avoir... je sais pas si c'est lui, ça doit pas être lui qui l'a inventé, mais le cauchemar dans le cauchemar, où Sam Neill se réveille et puis il est encore dans le cauchemar et puis il se réveille après. Donc c'est un bon moyen pour bousiller tous les repères du spectateur. Et après du sport, je sais pas ton avis. Enfin moi j'essaie de le montrer à Sabrina qui l'avait jamais lu. Elle est partie au bout de 10 minutes. Non c'est trop horrible.
C'est étonnant, je suis à peine surpris. Moi, je me souviens vraiment de la claque scénaristique, justement, comment c'était amené, et vraiment de l'aspect extrêmement léché. C'est vraiment d'un graphisme assez étonnant, parce que rien ne laisse présager. C'est vraiment monté comme un film américain, un peu traditionnel et tout ça, oui, vu comment voilà. C'est réalisé. On ne reconnaît pas du tout la patte de Carpenter de ce côté-là. C'est vraiment après, c'est au fur et à mesure, quand ça tombe, que là on est pris dedans et on a une bouffée d'angoisse monstrueuse.
Oui,
qui arrive.
C'est ça le crescendo du film, c'est que le propos du film, du point de vue de Carpenter, c'est de montrer que la littérature d'horreur et le genre horrifique, même au cinéma, peut avoir un côté très caricatural et ridicule, parce qu'il s'en cache pas, hein, y a des monstres aussi qui sont absolument ridicules, qui interviennent vers la fin, mais il dit aussi que si on s'y intéresse de trop près, si on plonge à fond dans le premier degré, on n'en sort pas vivant. Et c'est ça, il a essayé d'exploiter ce postulat jusqu'au bout. Et il est vraiment arrivé. Alors moi, ce que j'aime bien dans le film aussi, c'est que bon là, je l'ai découvert pour la première fois en DVD avec la VO. Et la VF, il faut dire qu'elle est excellente.
Elle est très très bien foutue.
Le doubleur de Sam Neill insiste vraiment sur le côté cynique du personnage. Alors on a quelques fleurons puisque bon, Carpenter a quand même le sens de la phrase choc. Donc j'ai repéré quelques dialogues. Trent qui va dans les bureaux de l'éditeur Arkane qui parle avec Linda Stiles. Ça se passe pas très bien au début puisque lui il est super cynique, il pense qu'au matériel, il dit que tous les gens sont pourris de toute façon, il faut tous les coincer. Et la fille lui dit mais non, la littérature d'horreur c'est génial. Alors elle lui dit vous n'aimez pas les romans d'horreur? Alors il y a John Trent qui répond oh vous savez, on pollue l'atmosphère, on fout en l'air la planète, pourquoi ne pas finir le travail en se bousillant le cerveau avec ce genre d'immondices. Elle lui répond vous devriez les lire, vous savez. Et il dit vous les avez pas plutôt en cassette. C'est assez énorme. Alors après, il y a la phrase qui a été retenue pour l'accroche du film, c'est la réalité n'est plus ce qu'elle était, puisque le postulat aussi c'est à partir du moment où vous croyez sain d'esprit, mais à partir du moment où la réalité fout le camp, vous êtes le seul à être sain d'esprit, vous êtes considéré fou comme fou par les autres. Donc voilà, c'est l'histoire d'un mec qui devient fou au fur et à mesure du film. Et d'ailleurs, au début, tout le film est un immense flashback où il est dans une cellule capitonnée où il se met plein de croix partout avec un crayon noir, et il y a le psy.
J'adore d'ailleurs, ça a été repris dans l'affiche où il fait des croix, mais vraiment toutes les formes, de la gothique,
oui.
De la Lorraine, de tout. Hein.
Voilà, et puis alors il y a le psy qui vient le voir et puis il lui dit vous voulez pas qu'on en parle un peu de. Alors il y a John Trent qui dit ça a l'air d'être le merdier dehors, non je veux pas sortir, je suis bien ici. Alors le psy regarde un peu ce qu'il a fait de sa cellule capitonnée, puisqu'il y a plein de croix partout. Ah, pas mal ces petites croix partout, vous avez raison, quand les docteurs les verront, ils voudront sûrement vous garder. Il y a quelques allusions assez rigolotes où au début il y a pour calmer les internés, il leur passe un morceau de musique un peu cheap et en fait c'est le groupe les Carpenters et
le groupe du réalisateur.
Il dit oh non pas les Carpenters. Le film commence comme ça. Voilà. C'est une immense claque, si vous le connaissez pas vraiment, vous précipitez-vous dessus avec un casting qui tue, Sam Neill qui est excellent, qui a jamais été aussi excellent, Julie Carmen, Jürgen Prochnow qui avait joué dans le bateau notamment, Charlton Heston qui joue le rôle de l'éditeur, bon voilà
ça le fait, voilà, c'est monstrueux.
J'ai repéré aussi John Glover, il y a John Glover aussi dedans. Hein.
Oui, alors je sais pas à quoi il ressemble, je sais pas.
Bah, John Glover, c'est
le père de Crispin.
Non, c'est le père de c'est le père Luthor, quoi, le père de Lex Luthor dans Smallville.
Alors, John Glover, qu'est-ce qu'il peut.
C'est peut-être également le méchant, on en a parlé il y a pas si longtemps, c'est le méchant Gamelitz 2.
Oui, bah, je pense que ça doit être celui qui joue le psy alors.
Assez fin, assez anguleux comme ça, quoi. Mais ouais. Très très bon acteur en tout cas.
Énorme.
Parfait. Alors voilà, c'est certainement le meilleur film de Carpenter à mon sens. L'Antre de la Folie in the House.
C'est celui où il a eu un budget et où il s'est tenu à un très bon degré de réalisation sans trop délirer, quoi.
Oui, la fin est quand même assez burnée. Ouais. Hein.
on va pas y revenir.
Donc, L'Antre la Folie in the Mouth of Madness en VO, un film de John Carpenter avec Sam Neill qui est sorti en DVD il y a quelques jours, là, il y a le mois dernier, je crois, chez Metropolitan, et c'est l'édition Prestige. Avec un seul DVD, il y a en bonus une interview très courte de John Carpenter pour les aficionados, on n'apprend rien du tout parce qu'il paraphrase le film et puis il a déjà dit ce qu'il dit là-dedans, ailleurs. Il y a un truc assez intéressant, c'est un entretien exclusif avec le responsable des effets spéciaux où il montre les effets mécaniques et les effets physiques du film puisque c'était pas encore, ils n'avaient pas de façon pas le budget pour faire du numérique et encore il y a un peu de numérique dans le film, il n'y en a pas beaucoup. Un entretien également avec Julie Carmen qui joue Linda Stiles et le matériel promotionnel habituel, plus un commentaire audio de John Carpenter et du directeur de la photo, le sous-titré, alors ça je l'ai pas vu encore, je sais pas ce que ça vaut. Voilà.
On va se faire, avant de passer à du sport, un petit tour de bonne vieille magie noire par la Fitzgerald. Vous écoutez FMR 89.1, c'est le supplément week-end. Thank you. Et là, c'est en train de discuter en disant non, non, c'est un tel, non, c'est tout ça. Et oui, supplément week-end, si on met de moins en moins de musique pendant l'émission, est-ce que tout simplement on continue l'émission pendant la musique, c'est pas drôle.
Et comme j'attaque par des nécros, là, tu vas pouvoir directement envoyer la première musique que je t'avais commandée.
Bah, j'en ai qu'une.
Ah bah vas-y, attaque là, alors. C'est, vous l'avez reconnu, hein, c'est un des génériques les plus célèbres de séries françaises, enfin séries en France, on va dire. C'est bien entendu The Persuaders, amicalement vôtre. On l'avait compris, hein, avec. Je vous en parle parce que, eh bien, si cette série est un petit peu spéciale par rapport aux autres séries américaines, on va dire, c'est qu'elle a connu.
C'est une série anglaise. La prod est anglaise.
Anglaise, pardon, excusez-moi. C'est que elle n'a pas connu vraiment beaucoup de succès dans son pays d'origine et dans les autres pays. Elle a connu un succès d'estime tout à fait mérité en France.
Ah oui,
pourquoi ? Et pourquoi ?
Parce que les acteurs s'engueulent entre eux.
Et parce que surtout le doublage en français a été excellent, mais vraiment excellent.
Oui, oui, oui.
Et c'est une des séries qui fait partie de la, on va dire de l'âge d'or, hein, du doublage français. À l'époque, ben on travaillait vraiment beaucoup. Il y avait des gens qui étaient spécialisés dans ce truc-là, qui retravaillait les textes par rapport au contexte étranger français. Donc, c'était très, très intéressant. Et là, on a un exemple. C'est l'exemple le plus connu. Hein, c'est, bien entendu, Les Persuadeurs, c'est amicalement vôtre. Hein, avec cette doublette Michel Roux et Roger Carrel, me semble-t-il, hein, l'autre. Hein,
Là, je ne saurais te dire. Peux t'avoir le renseignement si j'appelle quelqu'un, mais il va m'en vouloir si je l'appelle.
Ouais, non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ils en voudront pas, de toute façon. On rectifiera une prochaine fois. Et c'est tout ça pour vous dire que, eh bien, on a appris la mort cette semaine de Michel Roux, justement, à 77 ans, mort d'une crise cardiaque. Il doublait donc Tony Curtis, pas que dans Amicalement Vôtre, il a aussi doublé Tony Curtis pour les autres, pour tous les films que Tony Curtis a fait. C'est également le doubleur de Jack Lemmon, de Peter Sellers, d'Alec Guinness, enfin bon, c'est un grand monsieur du théâtre, hein, qui disparaît quand même. Il avait beaucoup, beaucoup œuvré dans le théâtre, on va dire, de boulevard français, mais enfin pas que, hein, de toute façon, quoi. Donc, rest in peace, Michel Roux. Si je vous parle de Karel Svoboda à présent, ça va rien vous dire du tout, du tout, du tout, du tout. Un mois avant non plus, je vous rassure. et pourtant, Karel Svoboda n'est plus, il s'est suicidé. Là, c'est un petit peu plus dur. Et il était tchèque, et c'était le compositeur du générique de Maya l'abeille.
Celui-là, je l'ai pas.
Maya
l'abeille.
Bon, bah,
Maya,
voilà.
Maya,
okay.
Maya, nanana.
Tu vois, Christine voulait me filer les paroles.
Bah oui, ça avait été remis à l'ordre du jour à cause de Love Story, la première saison. Avec Laure Delatte qui était
pas de people, hein. On a dit pas de people.
Voilà, donc et le troisième, encore un des cette semaine. Bon, je vais pas parler d'Anna Nicole Smith, je suis désolé.
Elle est morte.
Ouais.
De quoi? D'overdose?
Je sais pas, crise cardiaque. Enfin, moi, généralement, ils disent crise cardiaque, alors ça englobe tout, quoi, tu vois. C'est pas ce qui a causé la crise cardiaque, quoi. Quel produit ou quelle maladie, mais on va, j'ai crise cardiaque. Point. C'est tout. Je vais vous parler plutôt de Sidney Sheldon, qui est certainement moins connu que Anna Nicole Smith. Et pourtant, bah, on fera mieux de connaître Sidney Sheldon. 89 ans, lui, il a quand même bien vécu, hein. Ça, y a pas de problème. Il a été producteur de deux séries. Pas que de deux séries, mais il y a deux séries surtout qui ont marqué le paysage télévisuel. La première, pas trop connue parce qu'elle a été diffusée par la défunte chaîne, la cinquième, la 5.
La 5, oui.
Ok, c'est Ginny de mes rêves. Ginny de mes rêves, I Dream of Ginny, une série qui a connu 5 saisons de 65 à 70 et qui a permis de faire connaître un acteur qui allait devenir vachement plus célèbre dans les années 80, au début des années 80, c'est Larry Hagman. qui jouait dans cette série avec Ginny Merev bien le rôle d'un astronaute, hein, d'un capitaine astronaute, hein, qui part dans l'espace comme ça, qui revient avec une espèce de truc. Et cette espèce de truc contient eh bien un génie, une génie en fait, qui s'appelle Ginny ou Gianni, hein, comme dans le titre original, interprété par Barbara Eden. Et donc eh bien à chaque épisode, eh bien Larry Hagman, hein, qui est toujours en uniforme, il est capitaine astronaute et tout, tu vois. Et bon, la série assez marrante, et Barbara Eden est là, et puis elle exauce plus ou moins les vœux, ou elle fait des conneries parce que bon bah elle débarque sur la Terre, donc c'est pas trop comment ça se passe, donc elle veut faire plaisir à tout le monde et tout, mais elle va faire des conneries, tu vois quoi. Alors bon, c'est un petit peu le but de le truc de la série Ginny de mes rêves, mais la série qui l'a fait le plus connaître, hein, et c'est con, j'ai pas trouvé, j'ai pas le générique, je comprends pas pourquoi, c'est bien entendu Heart to Heart.
Oui, l'amour du risque.
Nanana, Jennifer. L'amour du risque, la série qui a également duré 4-5 saisons de 79 à 84 avec Robert Wagner et Stephanie Powers. Jonathan, la fille de Romina. La fille de Romina Powers et de. Comment il s'appelle cet acteur des années 50-40 et qui a été un des sex symboles du cinéma hollywoodien. Zut, qui fait Romina Powers. Si, si.
Cary Grant.
Non. Attention, là, c'est. Là, c'est voilà, bon, tant pis. Il a également produit. Écrit, hein, c'était un scénariste. Hein, il a commencé son premier scénario en 42. Hein, il a également œuvré dans les années 50 pour plusieurs comédies musicales. Il a également écrit le film L'histoire de Buster Keaton, fin des années 50. Dans les début des années 60, il a également fait un truc, quelques trucs à la télé, et c'est donc ses premiers scénarios pour série. Bien, ça a été Ginny de mes rêves. Il y a également eu The Patty Duke Show. Je n'en parle pas plus parce que bon, Patty Duke, personne ne sait qui c'est, hein, ni ceux qui nous écoutent, hein, d'ailleurs. Ça m'étonnerait d'ailleurs, quoi.
Méfiance, on a eu des surprises.
Et il a également produit dans les années 80, produit et écrit, bien entendu, une mini-série, mais un petit peu de prestige, hein, qui est repassée à plusieurs fois. Un petit peu sur toutes les chaînes, qui s'appelle If Tomorrow Comes, c'est arrivé demain, avec un casting haut de gamme, hein. J'ai repéré que les plus connus: Tom Berenger, David Kiss, Liam Neeson, C.C.H. Ponder et Lane Smith. Bon, Lane Smith, il y a il y a Mathieu en face de moi qui est en train de dire, c'est qui ce mec? C'est le patron de Lois et Clark dans la série Lois et Clark.
Ah oui, d'accord.
Voilà, et puis en plus il a une tronche vraiment reconnaissable. C'est, oui. C'est toujours le mec, tu dis putain, j'ai déjà vu cette tronche, mais je sais pas qui c'est. Quoi. C'est prototype.
C'était la rubrique de première, on sait jamais comment il s'appelle.
C'est le genre de gueule, de toute façon, il n'y a pas de problème. Quoi. Donc Sidney Sheldon également décédé. Cette semaine, parlons un petit peu de séries à présent. Alors là, tu vois, les séries, j'ai trois feuilles avec deux. Je me suis dit, il n'y a pas beaucoup de trucs cette semaine, alors deux. Oh, ensuite, je me suis dit, j'ai commencé le numéro 3 avec les films. Ensuite, j'ai deux bis, deux terres. Oh là là.
Non,
c'est du rapidos. Il faut savoir, on en reparlera. Mais enfin, Prison Break va être rediffusé.
C'est déjà
en mars par W9. En version multilingue, donc
c'est une très bonne nouvelle. W9 se met au multilingue, donc
oui,
c'est la deuxième chaîne à s'y mettre sur la TNT après Arte.
Ensuite, dans la série, grandes séries britanniques de prestige et de qualité, Miss Marple, l'épisode de cette semaine. Alors, il y avait Joanna Lumley dans le premier, ensuite on a vu Derek Jacobi là, la semaine dernière également. Hein. Et cette semaine, mardi prochain sur TMC à 20h45, elle m'a embrouillé là parce qu'elle m'a dit le titre en anglais, maintenant je me rappelle pas le titre. Le train de 16h50, voilà l'épisode, le train de 16h50, Miss Marple, interprétée donc par Geraldine McEwan, qui remplace Joan Nixon, qui peut plus le faire parce qu'elle est morte. Geraldine McEwan, quand même membre de la Royal Shakespeare Company, hein, c'est-à-dire bon, souplé. Attention, comme Patrick Stewart, comme
je vais pas citer Derek Jacobi,
ça va, quoi, c'est chaud, hein, c'est chaud, quoi, quand même. Mais dans cet épisode, on retrouvera John Anna. Hein, qui était l'interprète principal de la série McCallum, là, sur une série sur la morgue, qui était vraiment très très bien, hein, loin avant les séries sur les morts qu'on a, Bones et tout ça là, c'est loin avant, ça date de 97-98 quand même, qui avait été diffusé par Canal+. David Warner également dans cet épisode, et Jeff Rice Jones, la famille Rice Jones, enfin ils sont très nombreux, hein, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Sinon ce soir, alors Miss Marple c'est mardi prochain à 20h45 sur TMC. ce soir, un Columbo, mais alors, c'est moi, j'aime bien ceux qui ont été tournés par et avec Patrick McGowan, hein, il y en a trois, je crois, ou trois ou quatre, hein, qu'il a tourné. Il y en a eu dans les années 70, ensuite il en a fait deux dans les années 80, un au début des années 90, qui sont vraiment terribles, hein, excellents, excellents.
Il interprète un personnage différent à chaque fois.
Ouais. Et il réalise, hein, en plus, hein, attention, hein, Patrick McGowan. Et celui-là, bon, il fait partie de la première génération des Columbos des années 70, et c'est pratiquement l'un des meilleurs, hein, sinon le meilleur, quoi, de toute façon, de tous les Columbos. C'est Au Trouble, un Columbo de 75, dirigé par Ben Gazzara, le pote à Peter Falk, avec Robert Vaughn, Jane Greer et Dean Stockwell.
Oula!
C'est ce soir, 20h50, sur TV Braze.
Oh non!
C'est con, mais ce sera diffusé, ce sera rediffusé de toute façon, c'est sur TV Braze, donc de toute façon, ne t'en fais pas, tu le reverras.
Mais j'ai
jour
pas la Bretagne.
Ah bon, mais
je capte pas la Bretagne.
Ah bah c'est dommage. Sinon, samedi dernier, je vous avais dit que c'était les derniers épisodes de Secret d'Héritage. Je m'étais planté.
Aïe, ce soir.
Il y en a d'autres.
C'est ce soir. Ce soir, c'est les deux derniers. Là, c'est sûr, juré craché. Avec la libération et dénouement, donc. Et là, ben. On peut dire que j'ai vu la bande-annonce justement de ces deux derniers épisodes. Je veux dire, ça va dépoter là, ça va dégommer. La mère biologique va se faire dégommer par Yakov. Yakov, c'est un petit peu le patron de la mafia locale. C'est le mec, on sait pas trop, mais enfin, c'est lui qui tire les ficelles d'absolument tout. Il a toujours l'air de rester en dehors comme ça, mais bon, quand on a besoin d'un coup de main, on vient le voir et tout, puis tout s'arrange.
Bref, Yakov, c'est un outil pratique pour les scénaristes.
Ouais. Et là, attention, parce que bon, là, il a quand même jeté son dévolu sur la plus jeune des sœurs, Frédéric, quoi, parce que bon, il a flashé, enfin, je sais pas, quoi, et tout. Mais bon, Yakov, lui, c'est quand même le mec, il doit avoir 50, 60 ans, tu vois. Bon, genre, c'est pas du tout la même génération, tu vois. Et ça a pas trop bien se passé. Pourquoi? Parce que Frédéric, bon, au départ, elle est un petit peu d'accord et tout, parce qu'elle est un petit peu fofolle, tu sais, hein, elle est actrice avant de reprendre la laiterie. Mais elle va vite se rendre compte que bon, ben, c'est pas top, quoi, tu vois. Et donc, ben, Yakov, ça va pas lui plaire du tout, du tout, du tout. Et alors, que devient Dan? Hein? Le mec à Flore qui lui a fait le gamin? Eh ben, Dan, il va péter les plombs. Mais alors lui, c'est un enculé depuis le départ, depuis la saison 1, depuis le premier épisode où il commence à draguer, d'abord il drague la plus jeune, ensuite il se tape l'intermédiaire des sœurs, tu vois, il lui fait un gosse et tout. Et alors là, là il va devenir l'enfoiré de pourri, mais alors comme c'est pas permis, quoi, ça promet quand même. C'est ce soir donc dans Secret d'Héritage.
Que cela cesse.
Sur Canal Jimmy, à partir de 20h45. On va pas en rajouter sur les changements de programmation, changements de cases horaires, changements de jours de diffusion des différentes séries haut de gamme de nos chaînes hertziennes, à savoir France 2 en l'occurrence pour FBI Portée Disparue, vu que ça passe à lundi soir 20h50. Alors on s'attendait à des rediffs parce que bon bah ils avaient épuisé tout le stock d'inédits, hein, de la saison 4 quand ils les diffusaient le dimanche soir. Eh ben non, il en reste un. Et en fait, c'est le dernier épisode de la saison 4.
C'est quand, lundi?
Ouais,
alors
c'est lundi. Et c'est l'épisode qui va passer en premier, qui s'appelle « Des vies qui se croisent », avec comme guest star, Jason Priestley.
Donc, rappelle-moi.
Brandon Walsh.
Brandon, ouais.
Rappelle-moi, lundi soir, donc, on a droit à Road Genesis sur Arte, ouais, sur W9.
Attends, t'as pas tout vu, j'ai pas fini le lundi.
D'accord.
Soir.
Je m'inquiète.
Je commence par FBI là, tu vois quoi. Je commence par du léger là, quoi, tu vois, parce que effectivement, il y a Regenesis comme tous les lundis sur Arte en version multilingue.
Ouais, hein, et ça c'est bien parce que la VF elle est pourrie.
Non, la VF est bien quoi.
Non, elle est à chier. Je préfère l'interprétation VO.
Non, bon, c'est vrai.
Bon après, moi, si t'as pas un passif quand même d'universitaire biologiste, t'es un peu paumé.
Je continue à dire, hein, de toute façon, qu'il vaut mieux voir les séries ou les films en VO par rapport pour voir vraiment, pour se rendre compte de la qualité du jeu des acteurs. La qualité intrinsèque, quoi. Mais il faut dire qu'il y a certaines séries en français qui se laissent regarder. Moi, j'ai regardé Regenesis au départ, les deux saisons. En français, je peux dire que ça passe vraiment très très bien. T'accroches, t'as pas envie de partir, quoi. Là, dans les deux épisodes de lundi soir, cache-cache. Alors, c'est deux épisodes qui se suivent dans le temps, mais également au niveau de l'histoire. Hein. C'est-à-dire que dans le premier cache-cache, on apprend qu'il y a des vaccins antivariolis qui ont été contaminés par des souches actives, et donc de fait, il y a des milliers de personnes qui commencent à crever. Et dans le deuxième, eh bien, on commence à saisir un petit peu ce qui va se passer, quoi, au niveau de ces vaccins, d'où ils viennent, qui c'est qui a provoqué ce petite chose-là. Et ça annonce un tout petit peu la fin de la saison 1, qui est vraiment hyper, hyper heavy, hein, parce que, bon, Dr. Sandstrom,
je veux pas savoir.
Le docteur Sandstrom, qui a retrouvé le virus de la grippe espagnole, là, qui a été déterré sur un cadavre au pôle Nord, eh ben, il va se passer des trucs parce que, eh ben, il peut pas travailler, il peut pas faire ce boulot tout seul, hein, à savoir isoler le truc, le génome et tout le bordel. Donc, il travaille avec d'autres, la nana avec Jill du labo, mais également avec un transfuge soviétique, un scientifique soviétique qui est un petit peu tombé dans la colle, mais qui va être, bon, je le dis pas. Je le dis pas parce que sinon je vais spoiler, quoi. Donc c'est pas la peine. Tout ça c'est donc dans Regenesis, c'est lundi sur Arte. Mais il y a également lundi soir sur Paris Première, eh bien la rediffusion de MI5 en intégrale, c'est-à-dire on va recommencer depuis le début à partir de lundi. MI5, excellente série britannique,
hein, très bonne, ouais.
Sur ce service de contre-espionnage britannique, avec l'excellent Matthew McFadden qui, à la fin de la saison 1 ou 2, je crois, il se tire parce que bon, bah, il n'en peut plus, enfin bon, et il a été infiltré, enfin bon, c'est mais vraiment très très bon, hein, très très bonne série, donc en version masterisée multilingue, comme d'habitude sur Paris Première. C'est lundi à 20h50, suivi bien sûr à 22h45 de Nip Tuck, saison 4. Et alors là, bon, enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise depuis l'épisode Face Walper avec Brooke Shields, deuxième partie, plus l'épisode Burt Lando. Burt Lando, c'est Larry Hagman. Hein, et il y a également le retour de Rosie O'Donnell. Rosie O'Donnell, c'est la nana qu'on a vue lundi dernier, hein, et qui joue le rôle d'une grosse nana qui a gagné le billet de loterie, quoi, donc qui devient riche à million, et donc elle va avoir les deux toubis pour dire ouais faut me refaire ça, faut me refaire ceci, tout, alors que bon, bah, elle est grosse, et puis bon, elle commence à s'acheter plein de trucs, elle commence à vivre dans un château, enfin un truc super kitschos et tout, et elle fait refaire une grosse bite à son mec, des seins à sa fille et tout, quoi, et bon, ça capote un petit peu, c'est-à-dire elle tombe un petit peu de haut, quoi, quand elle se rend compte que son mec, quoi, bah, il nique avec sa fille et tout, quoi, donc elle les vire et tout, elle se retourne vers le docteur Christian Troy, bien sûr,
oui, évidemment,
hein. Oui. Bien sûr, et là elle va revenir, quoi, elle va revenir donc dans ce deuxième épisode de Nip Tuck, l'histoire de Burt Lando, également centré donc sur Burt Lando, Larry Hagman, qui, bah, il est très très vieux, hein, il apparaît très très vieux, on se demande ce qu'il fout avec une super belle black, hein, qui est la patronne de la clinique, on se demande ce qu'il peut foutre avec elle, enfin bon, voilà, c'est tout, c'est comme ça, quoi, et là, bon, bah, il commence à vraiment décrépir, quoi, donc bon, on va voir ce qu'ils peuvent faire, hein, les toubibs. Mardi.
Ça, non, c'est... tu as un avis de spécialiste là-dessus?
Ouais. Un problème mental.
Mardi, on a CSI Manhattan sur TF1, hein, bien sûr, avec trois épisodes de Samouraï des Affaires, hein, -10, les cendres du passé, -10, et Reconstitution, -12, avec Kid Rock, ouais, en invité principal. Qu'est-ce que ça va le faire? Ça va le faire, tu crois?
C'est qui?
Ah ouais.
Kid Rock?
Oui.
Bah, c'est un mec qui, c'est un blanc avec des cheveux longs, qui ressemble un petit peu à Johnny Winter, et puis qui fait du hip-hop, quoi. Ah, avec des instrus rock, quoi, on va dire, quoi.
Thomas devrait écouter un peu plus souvent Radio Éphémère, parce qu'il passe régulièrement, et quand
si,
même, à la prod.
Si tu lisais un petit peu plus les magazines People, tu saurais également qu'il a épousé une certaine Pamela Anderson.
Oh merde.
Ah ouais.
Eh oui.
Eh ouais.
Ouais, on prend ce qu'on a, hein.
Pardon. Alors, dans Doctor House, mercredi prochain, c'est sur M6 à partir de 20h50, deux épisodes, Mélodie d'amour et Bonheur conjugal. Alors, Doctor House, c'est absolument magnifique. De toute façon, c'est la meilleure série qui passe en ce moment à la télé. Hein. Ça, y a aucun doute là-dessus. Hein. Ça, c'est clair. Hein, de toute façon, dans les épisodes de mercredi dernier. Alors, c'est la deuxième fois. Hein, c'est la deuxième fois. Mais alors, nous connaissons pas exactement la diffusion de ces deux séries originales aux États-Unis dans le temps. Je pourrais pas dire qui a pompé l'autre parce que c'est la deuxième série qui fait allusion à un toubib qu'on connaît bien, nous, ici, hein, un toubib de l'époque napoléonienne qui s'appelait Larrey. L'hôpital Larrey, on connaît à Toulouse, on a une rue Larrey et tout. C'était un toubib chirurgien des armées napoléoniennes et qui avait trouvé un truc vachement intéressant, hein, c'est le fait de nettoyer le meilleur moyen de nettoyer des plaies, c'est de mettre des asticots dessus. parce que les asticots en fait ne mangent que les chairs mortes, mangent pas les chairs vivantes, quoi. Donc ça nettoie bien, quoi. Et on avait déjà eu ce premier exemple dans un des premiers, le deuxième épisode de Bones, la série avec David Boreanaz et Emily Deschanel, il y a 15 jours, 3 semaines. Et là, dans l'épisode, un des épisodes de mercredi dernier de Dr House, le premier épisode, il y a un mec qui fait un accident de quad et tout, brûlé au deuxième degré, 40% de peau niquée et tout. Pareil, à un moment, bah, hop, il lui balance des asticots sur tout le corps, histoire de nettoyer les plaies. Et il fait référence justement au docteur Larrey, hein, bien entendu. Et alors, il y a un gag absolument énorme, hein, c'est que parallèlement, il essaye d'enfler un ex-collègue à lui qui avait fait la fac de médecine avec lui, mais qu'il avait dénoncé, alors qu'il lui il voulait tricher, il avait triché et tout, et puis le mec l'avait dénoncé. Et donc 20 ans plus tard, ce mec, ce toubib revient pour faire une conférence dans l'hôpital sur un nouveau médicament qu'il a trouvé contre la migraine et tout, qui est soi-disant super et tout. Et Dr House donc décide bah, de le planter à fond les manettes. Et pour ça, bah, il essaye de... il analyse tous les protocoles qui ont été faits par ce toubib pour voir s'il s'est pas planté, où est-ce qu'il s'est planté et tout ça, quoi. Et donc il injecte des produits à un mec dans le coma pour voir si ça réagit au niveau du scan dans le cerveau, enfin des trucs qui sont interdits, quoi, tu vois, antidéontologique au possible. Et à la fin il se balance des produits, il s'injecte des produits, il s'envoie des produits qui lui fait une super migraine, enfin un truc pas possible et tout, quoi. Pour en sortir et tout, il bouffe du LSD. Enfin bon, c'est laisse tomber, ça va, quoi. C'est terrible, hein, Dr House, quoi, de façon, quoi. Et il termine l'épisode en plus, quoi, en ramenant une pute chez lui, quoi. Enfin bon, histoire de bien décompresser, tu vois. Bon, mais c'est très grand, quoi. De toute façon, il n'y a rien à dire de plus. Dr House, donc mercredi prochain sur TF6, 2 épisodes. Il y a également une série qui peut-être regardable. C'est une série allemande qui s'appelle Vice Squad, qui sera diffusée jeudi prochain sur TMC en deuxième partie de soirée à 22h20.
Elle est déjà en cours de diff.
Je sais pas, c'est la première fois que je tombe dessus. Mais en tout cas, bah, c'est l'occasion de repartir, car le pilote est rediffusé.
C'est assez américain d'ailleurs comme type de prod et tout ça. Et ça change un peu par contre des productions RTL prod pour l'Allemagne, où on fait exploser des voitures et tout ça. Non, c'est un très très bon polar. Hein.
Donc,
je conseille.
Le pilote, deux amis, numéro 1, numéro 2, en deux parties. Jeudi prochain sur TMC à partir de 22h20, suivi d'un troisième épisode qui s'appelle Dangereuse Cachotterie. Ça, c'est pour les séries. Il y a quelques films, alors pas terrible, je vous ai choisi que des films qui vont passer ce soir, par exemple. Il y a deux films à la con, mais vraiment très. Pas mal, quoi, franchement.
Ça va être déjà la rubrique Le film à la con.
Non, mais là, il y a encore. Je l'ai revu, je sais pas, cette semaine, là, je suis tombé dessus de nouveau, quoi, et bon, ça m'a fait plaisir de revoir quelques parties.
Alors, du sport, fais-moi plaisir, dis le film à la con.
Le film à la con. Du samedi soir.
Merci.
Alors ce soir sur RTL9 à 22h50, mais c'est toujours un plaisir de le revoir. Hein. De toute façon, c'est le retour du mort-vivant, hein, le film de Dan O'Bannon, qui est absolument magnifique. Hein, les dialogues sont d'une finesse. Enfin bon, c'est génial, quoi. C'est vraiment génial. Non, mais je parle au premier degré en plus. Hein. Vraiment, il faut voir ça, quoi. Tu veux te pisser dessus de rire, tu regardes Le Retour des Morts Vivants, c'est absolument génial. Il y a également sur TMC ce soir un film qui vaut surtout pour son casting explosif. Le titre s'appelle Trafic Explosif, réalisé par Master P. Attention, hein, Master
P.
Ah,
le rappeur.
Ouais, le rappeur, hein, qui a également sa série pour les gosses, tu sais, quoi. Mon cousin machin, je sais pas quoi. Là.
Oui.
Hein, avec son c'est pas son fils, avec Lil Romeo dedans, quoi. Voilà, c'est ça, Lil Romeo, quoi. C'est son cousin, non, son neveu, voilà, c'est le tonton, c'est pas le papa, c'est le tonton. On le voit d'ailleurs apparaître de temps en temps dans la série, hein, parce que c'est lui qui produit cette série, qui réalise des trucs et tout. Et il a réalisé pour sa compagnie de films, parce qu'il faut dire qu'aux États-Unis c'est un des mecs qui fait le plus de pognon avec le rap, quoi, même s'il produit pas un rap qui est apprécié, on va dire, par les gens mainstream, par le mainstream et par les puristes, on va dire, du hip-hop. C'est quand même lui qui, au niveau de la maille, ben ça va, quoi. S'il se permet de produire des films, de réaliser des films, de réaliser des séries à la télé pour les gamins, hein, c'est que bon, ben il y a de la pépette derrière. Là, c'est Trafic Explosif, donc de Master P et de 97. Là, c'est plutôt du gros truc bien bourrin, hein, avec Gary Buzet, Jeff Fahey, Gary Daniels, et pour la touche féminine, ben on rajoute Pam Grier. Donc rien que
pour
ça.
Ah, s'il vous plaît.
Ah, ben je vois que tu as regardé The Birdcage.
Pas encore.
Ah, ça, là, là. Mais regarde-le. Oui. Regarde-le. Regarde-le, je te dis.
J'aurai bientôt des congés, j'aurai le temps.
Voilà, ben, oui. Y en a un autre également, mais enfin bon, c'est un classique, c'est certainement le Walter Hill le plus pourri, quoi, qu'il ait fait, quoi.
Dernier recours.
Non, dernier recours, c'est encore pas mal, quoi, tu vois, quoi, franchement.
Attends, avant que tu le dises, on va essayer de deviner, ok? Allez, hop.
Allez.
C'est connu, ou pas beaucoup?
Ouais, parce que bon, bah, y a un casting avec des hip-hoppers dedans, quoi. Ah, si je te dis ça, ça te donne
de vapeur.
La bande son est très connue.
Non, tu confonds avec un autre.
D'accord.
Tu confonds.
Il est sorti en quelle année ?
En 92.
Oh punaise, j'aurais cru, tu vois.
Ah.
J'aurais vraiment cru à Judgment Night pour le coup.
Bill Paxton, William Sadler, et de l'autre côté, on a Ice-T et Ice Cube, les deux ensemble.
Ah.
Et c'est là, ça devrait donner la puce à l'oreille parce que Ice-T, Ice Cube, ils en ont pas fait des tonnes ensemble, hein,
ouais,
de toute façon.
C'est,
hein, c'est souvent séparé et tout. C'est les pilleurs, hein, le film de Walter Hill de 92. C'est l'histoire de, ils veulent récupérer un trésor dans un bâtiment. Je crois que c'est une vieille église désaffectée. Et en fait, au début, ils viennent tous ensemble, mais au bout d'un moment, ils se séparent, ils commencent à se bastonner entre eux et tout. Enfin, c'est un petit peu n'importe quoi, mais enfin bon.
C'est rigolo, quoi.
Ouais, c'est rigolo, quoi. Enfin, moi, par rapport à ce qu'a fait Walter Hill, quoi, par le passé, hein, voilà, hein, c'est pas top. Sinon, il y a également quelques petits docs, hein, je fais pas assez souvent de rubriques sur les documentaires qui passent à la télé, je commence par le meilleur. C'est les meilleurs moments de la télé-réalité sur TF6, mardi prochain.
Non.
C'est le numéro 2. Et c'est présenté par Loana.
Regardez comment je me suis bien fait tringler dans la piscine.
Non, ça ils ont pas le droit de le rediffuser, figure-toi. Ils n'ont pas le droit de remontrer ces images, quoi.
Prends ça dans ta gueule.
Sinon c'est l'avocat qui arrive.
C'est bon, je pourrais.
Voilà, donc c'est bien la chose à ne pas faire, c'est en l'envoyer un. C'est envoyer une vacherie pendant que du sport est en train de boire, c'est pas bon.
Faut pas le faire.
Je rappelle quand même que l'abus d'eau est dangereux si vous avalez de travers. Voilà.
Dans un registre plus sérieux au niveau des documentaires. Sur Arte, voilà, on se dit ouais c'est cool. Vendredi prochain, alors toujours la deuxième partie de soirée sur Arte du vendredi, il y a toujours des docus qui sont excellents, vraiment excellents. Il y a eu un docu, je crois qu'il y a 15 jours, hein, sur le sexe dans l'ex-RDA, qui était absolument excellent.
Alors, ah oui, il était grand.
Ah ouais,
il était fort.
Grand et fort, oui, bien sûr.
Non, mais t'apprends que bon bah ils y allaient à fond les manettes, il y avait pas de restrictions au niveau du cul en RDA et tout, au contraire, ils développaient carrément le fait d'avoir des aventures pré-conjugales avant de se marier, quoi, pour essayer, tu vois, quoi.
Hein, pour sociabiliser,
ils étaient, ils étaient dans l'idée, hein, même le patron, Eric Honecker, quoi, il était pour ouais, ce c'était, truc-là.
C'est une manière surtout de contrebalancer le clergé qui était en underground et tout ça, à dire non, allez-y, vous allez voir, c'est fun.
Ouais, allez-y, à fond les manettes et tout, il n'y a pas de problème et tout, c'est cool. Enfin, bon, c'était vraiment très très bien, hein, j'ai appris, alors que justement, de l'autre côté, quoi, dans la Malle de l'Est. Jusque dans les années 80, 70, je veux dire, la révolution sexuelle, ben, on la regardait passer comme ça, quoi, mais de loin, quoi.
Oui, c'était ça qui était sexy à l'époque.
Alors, le documentaire de ce vendredi, donc sur Arte, à partir de 22h10, c'est le coming out du cinéma. Ça va parler de l'homosexualité au cinéma, comment le cinéma... Qui au départ, il y avait eu un film qui était sorti d'ailleurs au cinéma qui s'appelait je me rappelle pas le titre, mais enfin qui parlait justement de tous les films de la période Hollywood où il y avait des allusions plus ou moins on va dire cachées quoi au niveau de l'homosexualité, vu que plus de la moitié des réalisateurs qui étaient dans le gotha hollywoodien étaient homosexuels plus ou moins déclarés, et pas les plus petits, hein. Très 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 connu. C'est un nouveau documentaire complètement inédit, hein. Il date de 2007, donc il est tout frais sorti, hein, des presses. Ça passe donc vendredi prochain sur Arte à 22h10, suivi à 23h45 d'un film. Et là, c'est un film de qualité également, hein, qui parle d'homosexualité. C'est Ni Dieu ni démon, le film de Bill Condon, avec Ian McKellen qui reprend le rôle de James Whale, c'est le réalisateur des premiers Frankenstein et tout ça, quoi, qui était homosexuel, et qui raconte un petit peu l'histoire de sa vie à son jeune jardinier qui est beau, magnifique, et qui est interprété par Brendan Fraser. Tout ça, donc, c'est vendredi prochain sur Arte à partir de 22h10. Arte qui vous diffuse également un documentaire en deux parties. La première partie, mercredi prochain, à partir de 20h40, 50 minutes, c'est le fascisme italien. Et ce qu'il y a de bien, c'est que on a colorisé les images, hein, tu sais, comme les trucs qui nous avaient déjà fait, la guerre en couleurs, les
oui,
trucs comme ça et tout. Là, ben, on va nous raconter l'histoire du fascisme italien en couleurs. Donc, première partie, mercredi prochain, quoi. Donc,
sachant qu'ils avaient des pellicules couleurs qui venaient de l'usine Agfa en Allemagne, hein, ils avaient des échanges justement de ce côté-là avec l'Allemagne.
Pas si tôt, hein, parce que bon, il faut savoir que le fascisme italien, ça commence
en 1922. Tôt, hein,
en 22, quoi.
Oui,
donc,
hein,
alors que bon, les Boches, ils ont attendu un petit peu plus loin. Les Allemands, pardon, excusez-moi. Je suis désolé. C'est mon fond d'Alsacien qui revient. Et je termine avec le documentaire.
Mais mince, on est en Europe.
Et je termine avec le documentaire qui plombe vraiment, quoi, parce que bon, c'est un sujet qui est très très heavy, hein, c'est l'un des derniers gros tabous, on va dire, en ce qui concerne le sexe, hein, c'est bien entendu les histoires d'inceste et de pédophilie.
D'accord.
À travers un excellent documentaire, un film documentaire sorti au cinéma, il faut le préciser, hein, et qui sera rediffusé, parce que j'ai réussi à le voir un coup, c'est diffusé super très très tard, et c'est normal parce que le sujet le veut, hein, quand même. Ça s'appelle Capturing the Friedmans, ça dure 1h45, donc film documentaire, donc, hein, sorti en salle, ce sera diffusé mardi prochain à 0h15, alors c'est l'histoire d'une famille qui s'appelle les Friedmans et les keufs. Alors le père est un ingénieur informaticien dans les années 80. Il donne également des leçons de piano. Il est très. Ça se passe dans une banlieue de classe moyenne américaine. Il y a pas de vagues. Tout le monde s'aime bien. Super. La délinquance est vraiment au taux le plus bas. Enfin bon, c'est génial. C'est idyllique. C'est superbe. Et l'histoire commence quand les flics mettent la main suite à une dénonciation des postiers. Et ben sur une enveloppe qui contient des écrits pornographiques mais pédophiliques, à savoir des illustrés qui viennent de Hollande, je sais pas quoi, et donc adressés à Monsieur Friedman. Et là, l'histoire commence à s'emballer, quoi, parce que bon, on commence à choper le mec et tout, et on se rend compte que ce type-là, en fait, violentait également tous les enfants qu'il avait comme prof de piano, qu'il avait violenté son fils aîné, que son fils aîné, quand il était assez grand, avait commencé à faire partie du truc. Enfin, ça commence à être glauque comme c'est pas permis, la famille commence à se déliter, et dans ce documentaire, on a donc, hein, les interviews et les descriptions des différents intervenants, c'est-à-dire le fils, celui qui allait en tôle, la famille a complètement éclaté, la mère, enfin bon, t'as tout, quoi. C'est assez prenant quand même, hein, mais c'est vachement bien monté, c'est excellent. Ça s'appelle Capturing the Friedman, ce sera diffusé mardi prochain sur Planète No Limit à 0h15.
Oui, anciennement Planète Choc.
Anciennement Planète Choc, hein, bien entendu. Voilà, bah c'est tout, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise. Je peux encore te faire vite fait le...
Ah oui,
la revue de presse avec
ça va balancer. T'as pas de jingle?
Aïe. Non, j'ai rien de franchement.
Alors j'ai toujours dit,
ah, si,
pratiquement toujours dit du bien de Technic Art, quoi. Pratiquement toujours, hein, vraiment, quoi. Là pour ce coup-ci, je suis vachement déçu parce que bon, le prix a remonté, hein, 4,50 pour 100 pages, quoi. Ils se foutent pas de la gueule du monde un petit peu, quoi. Un gros dossier central sur les gens qui passent leur temps sur Internet et qui s'imaginent qu'il n'y a pas d'autre vie qu'Internet.
C'est le phénomène No Life.
Voilà. Il y a une chaîne qui va se créer, qui va s'appeler No Life.
Ouais, il y a un truc sur Second Life. Alors, il y a un truc assez marrant sur une nana qui sur Second Life, son personnage, c'est une pute, quoi. C'est-à-dire, elle fait la prostituée sur Second Life. Donc, c'est assez rigolo, quoi.
Ouais, ce qui est moins rigolo, c'est que le Front National a une délégation là-bas.
Ouais, non, ils se sont fait virer, je crois. Hein.
C'est, non, ils y sont toujours.
Parce qu'il y a également le PS, hein, qui
oui, le PS, quoi, s'est fait virer.
Il
ouais.
y a également un article sur la French Touch 10 ans après, et c'est là où les mecs ils se foulent pas, ils se font pas chier et tout, parce que dans la page Selector Media qui est consacrée à la télé, eh bien, toutes les séries dont il parle, je vous en ai parlé il y a déjà des semaines et des semaines. The Unit, Bones, Kevin Hill, j'en parle pas parce que bon, bof quoi.
Ah oui, c'est un
Threshold, Scary Stories, contrairement à ce que ça, à son titre, n'est pas américain. C'est la série des films d'horreur espagnols dont je t'ai parlé,
oui, hein,
avec le film de Jaume Balagueró, le film de Alex, le téléfilm de Alex de l'Iglesia. Il y a également Sugar Rush dont j'ai parlé. Enfin bref, quoi. C'est bon, bon, laisse tomber, quoi. Bon, bah tant pis. Tiens, je te le donne.
Ah, merci.
Le nouveau cahier du foot est sorti avec un petit peu de retard vu le titre. France-Argentine, mais enfin un dossier complet sur France-Argentine, sur l'Argentine, quoi. Bah, comme d'habitude, hein, ça, c'est excellent, c'est remarquable.
Et les stades argentins sont très connus, c'est... d'ailleurs, pour leur système de purification ethnique.
Ouais, non.
Si.
C'était les stades chiliens plus.
C'était au Chili.
Plus au Chili, quoi. Mmh. Tu vois, en Argentine, on les balançait dans la mer, quoi. C'était plus facile. Quoi.
Ça coûtait moins cher.
Il y a également le nouveau SoFoot qui vient de sortir avec Samy en couverture. Avec un interview excellent d'Arsène Wenger où dans l'interview deux fois il le dit deux fois que les Alsaciens après-guerre ils ont été élevés dans la haine du Bosch.
D'accord.
Oui, c'est pas okay. C'est un Alsacien qui
deux,
parle. Hein.
Deux fois.
Voilà, oui, on a compris tout à l'heure.
Deux fois il le dit. Hein.
Donc tu t'es absenté.
Pas une fois dans l'interview, deux fois hein, il le répète quoi. Il y a également. Il y a également des trucs plus sérieux, un reportage excellent, très sérieux sur les nazis qui commencent à infiltrer le football allemand, la Bundesliga, la Bundesliga, c'est la première division,
la deuxième,
mais qui vont dans les divisions inférieures et puis qui sont vraiment très implantés hein, dans certaines régions, plus dans l'ex-Allemagne de l'Est d'ailleurs que mais pas que hein, et ça fait vraiment peur quand même, vraiment. Ça fait vraiment peur. Il y a également l'interview de Fred et de Vikash pour le film Substitute. Le film sort mercredi en salle. Substitute, hein, le film de Vikash Dorasso et de Fred Poulet. Alors, ce que je peux remarquer, hein, bon, c'est pas parce que je connais personnellement Fred que, mais de toutes les critiques que j'ai pu lire, il y a la critique dans le SoFoot. Il y a la critique de Substitute dans Cahiers du football, il y a la critique de Substitute dans le Technique Art, il y a la critique de Substitute encore je sais pas où.
Dans l'équipe magazine
peut-être dans l'équipe magazine, elles sont toutes pas dithyrambiques, mais enfin bon, il y en a pas un pour dire que c'est de la merde, que c'est mal.
Si ça pouvait doubler Taxi 4, ce serait bien d'ailleurs.
Non, faut pas rêver quand même. Oh. Attends, hein, parce que bon, ça va sortir à l'Utopia peut-être, et puis voilà, hein, voilà quoi, c'est tout.
Rendez compte.
Surtout à Paris d'abord, et puis à Toulouse.
Ouais, rendez compte, ouais. Les abonnés du TFC vont tous aller en groupe à l'Utopia.
Il y a aussi un article excellent qui s'appelle Sympathy for the Football et qui est consacré aux Rolling Stones. Était-il supporter de club et tout? Et un article, alors là, qui est vraiment très très bien, d'un monsieur dont j'ai parlé il y a pas longtemps parce qu'il est mort backstage d'un concert des Rolling Stones dont il avait été le producteur, c'est Ahmet Ertegun, j'en ai parlé il y a 15 jours, 3 semaines, c'est le président d'Atlantic Records, il a signé les Cream dans les années 60, il a fait venir les Stones chez lui pour les distributions, il a édité, c'est lui qui a fait connaître Mingus, Coltrane dans le début des années 60 et tous les nouveaux jazz.
C'était à la page des femmes de footballeurs.
Et c'était également... les femmes de footballeurs.
Ah, merci.
C'est ta double page préférée, je le sais. Et également, c'était le président du Cosmos de New York qui il a fait venir à New York, donc Pelé, il a fait venir Cruyff dans les années 70 pour jouer au football. Beckenbauer également.
Je crois que ça a été le seul exemple d'équipe de football, enfin soccer, comme ils disent là-bas, professionnel aux États-Unis jusqu'au début des années 90.
Non, il y en avait d'autres. Hein. C'était la Major League of Soccer, MLS, qui avait été créée plus ou moins conjointement avec ses différents patrons, hein, qui voulaient développer ce truc-là, quoi. Et bon, c'était pas lui, c'est-à-dire c'était plus un truc d'enfant. Hein. Il faut dire qu'Ahmet Ertegun est né en Turquie, ses parents étaient diplomates turcs.
Galatasaray.
Et ils ont diplomates, donc ambassadeurs. Ils se sont tirés aux États-Unis parce que pendant la Seconde Guerre mondiale, les Turcs sûr que bah ça valait pas le coup, c'était un petit peu, ça craignait un petit peu quoi, donc ils étaient pas d'accord avec Kemal Atatürk, donc bah ils ont dû se barrer quoi, tu vois quoi.
Aye.
Et donc il a toute sa jeunesse, il l'a passé à New York. Ouais.
Non ouais, mais attends, genou, ça c'est genou, du sport, mince, il est 13h27 là, demain on a bien, ah ouais, bien franchi quoi.
Ah ouais d'accord, ok, ouais. Bon bah j'arrête, ok, je passe de l'autre côté. Ok. Hop.
Ah c'est plus simple comme ça. Thomas, s'il te plaît, garde à vous. Ouais, je t'ai fait un peu sursauter, excuse-moi. Peux-tu me faire le résumé pour ceux qui ont pris l'émission Supplément Week-end en cours de route ?
Oui, donc le procès-verbal d'aujourd'hui, il y avait une interview de Henri Chan pour Pride of Baghdad qu'on a également chroniqué. Il y a eu la rubrique Nécrologie avec Amicalement Votre, Maya l'Abeille et Pour l'amour du risque qui sont en deuil. De la BD asiatico-française, du DVD Lovecraftien par Big John, résumé de Secret d'héritage, l'inévitable secret d'héritage. Pour l'avant-dernière fois, voilà. Le jingle quand hein, c'est la dernière fois ou l'avant-dernière, t'as dit qu'il y avait le dernier épisode. Ah, c'est le dernier épisode.
Non, ce soir les deux derniers.
Ah,
sûr,
d'accord.
Sûr.
Okay. Ouf, hein. C'est sûr.
Ouais. Okay. Il est temps pour lui que cela cesse.
Que cela cesse. Et du sport qui a manqué de s'étouffer avec une bouteille d'eau.
Voilà, mais non d'un Charlie Hebdo, ils ont manqué tout ça. Heureusement, ils peuvent réécouter le supplément week-end en allant sur le site internet de la radio www.radio-fmr.net. Ou sinon, vous cherchez Supplément Week-end Radio FMR. Vous avez une chance sur deux de bien tomber en tapant dans Google, Yahoo, MSN Live et tout le reste. Et vous allez tomber donc sur les émissions qu'on enregistre et qu'on vous met en ligne. Et vous pouvez même vous abonner d'ailleurs pour avoir le différentiel là.
Dans le prochain numéro, qu'est-ce qu'on a ?
Oh, ma foi, je crois qu'il y a une spéciale SF.
Une spéciale avec science-fiction.
Avec le nouveau et avant-dernier, Valérian et Laureline.
Oui, une interview de Denis Bajram, qui a un débit de parole assez conséquent, on va dire.
Et qui a des choses à dire. Et puis ensuite, la semaine suivante, le 24 février, Malka Eris, Richard Malka, et... entre autres, ben justement, l'avocat de Charlie Hebdo.
Oui, mais c'est pas pour ça qu'il sera là, c'est surtout pour la face cachée de Sarkozy.
Voilà, qui est sorti chez Vent d'Ouest. La suite des programmes sur Radio FMR avec, cette fois-ci, je vais pas me planter, du sport. 15h, le potager, 16h, scène transmission, 17h, Big Bang, 18h, vie d'ordure, 20h, la CTRO expérience, 21h30, stay tuned, jusqu'à 23h, on est en direct jusqu'à 5h du matin sur 89.1 MHz. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même fréquence. Ciao, bye.
Ciao.
Et puis... tout de suite, ça c'est du sport.
Bon week-end.